France Inter, le 18-20.
Si je regarde autour de moi, là, la plupart des textes de l'émission sont écrits sur l'ordinateur, mais pas imprimés, donc là j'ai bon. Il y a quand même beaucoup de papier qui traîne, mais qui finira à la poubelle recyclage, donc c'est bien aussi. En revanche, j'avoue que mon dernier café était une dosette, et je sais pas très bien comment ça se passe en termes de recyclage. Comme nous tous, j'ai mon petit côté décroissant dans les achats de nourriture, pas vraiment en période de fête, j'avoue. J'ai pas acheté de cadeaux recyclés ni usagés non plus. J'ai du plastique dans mon sac de piscine. J'ai bien du vinaigre blanc dans les produits à la maison, mais pas acheté en vrac. Pour le déo, les dentifrices, les crèmes, je suis pas encore mûre, très honnêtement, pour le fabriquer moi-même. Bref, on s'arrange tous un peu avec notre quotidien, mais objectivement, on essaye tous aussi de moins jeter. Parfois, il nous manque simplement des clés, des trucs, un peu de motivation devant la société de consommation pousse au crime. Alors, ce soir, justement, essayons de ne rien jeter. Qu'est-ce qui est réellement facile et qu'on pourrait donc tous faire beaucoup plus facilement? Qu'est-ce qui est réellement possible? C'est pas pareil quand on a des enfants, un travail, pas beaucoup d'argent, pas de magasin en vrac à côté de la maison. Comment je fais pour les convaincre, justement, les enfants, que même les fringues d'occasion, c'est pas mal non plus. Est-ce que le compost sur le balcon, c'est raisonnable et c'est faisable? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi sans nous culpabiliser parce qu'on n'a pas acheté un sapin de Noël replantable? Tous ceux qui vivent zéro déchet, sans se forcer, sont là aujourd'hui, ce soir, autour de cette table et vous pourrez leur poser des questions. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Gérard, c'est à vous. Soyez le bienvenu, Gérard. Bienvenue au téléphone sonne.
Bonsoir.
Bonsoir. Allez-y, Gérard.
Oui, alors, je vous remercie de prendre mon témoignage. Je témoignais simplement pour dire que avec 50 familles à Mérignac, on a participé pendant 9 mois à une expérience défi presque zéro déchet. Et donc, ça a consisté tout simplement à revoir sa chaîne de consommation, à fabriquer, bien sûr, un certain nombre de produits soi-même, les produits ménagers, pas tous, mais quand même un bon nombre, à revoir sa consommation, à faire la cuisine soi-même, beaucoup plus, à aller moins au supermarché, à faire du compost pour certaines familles qui n'étaient pas déjà engagées. Et donc, en conclusion, on a quand même réussi à diminuer notre poubelle entre 30 à 40%, suivant les familles, voire plus pour ceux qui compostaient. Donc, c'est réalisable, c'est faisable. Alors, il y a des freins. La société qui nous entoure ne le facilite pas toujours, notamment la grande distribution ne fait très peu d'efforts. Il n'y a pas toujours des magasins en vrac, comme vous avez dit. Et puis aussi, c'est un coût. Toutes les familles ne peuvent pas toujours se permettre d'aller au Biocoop ou au supermarché bio. Donc, ça nécessite aussi là un accompagnement. Mais c'est possible et on peut vraiment sortir un petit peu du facile à acheter et on peut faire soi-même. Et en plus, c'est un projet familial et ça, c'est aussi quelque chose de sympa.
Alors, juste une question subsidiaire, Gérard, parce que comme vous le dites, effectivement, il y a 50 familles, donc chacun est un peu comme il le sent. Vous, par exemple, très concrètement, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à ne pas jeter? C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste dans votre poubelle, en fait? Vous qui avez l'air d'être très, très motivé.
Ben, on est très motivé. Après, ça dépend des moments et des humeurs aussi. On n'est pas toujours, fait du même bois tous les jours. Donc, parfois, il peut y avoir, une facilité. Aller acheter du jambon au supermarché parce qu'on va vite faire, ça va être plus facile à faire la cuisine. Et puis, on n'a pas forcément le boucher à goût ou le charcutier à proximité. C'est la vraie difficulté, c'est le commerce de proximité qui peut faciliter en fait certaines choses, mais tout le monde n'a pas ça à côté de chez soi aujourd'hui. C'est une difficulté qu'on a ressentie. Voilà. Et puis après, il n'y a pas non plus un discours ambiant qui peut vous faciliter ça. Par exemple, la consigne, ça serait très bien de revenir à beaucoup plus de consignes. Et là, il y a rien qui facilite ça. Donc, on jette le verre. Ben, jeter le verre, c'est bien. Recycler le verre, c'est bien, mais c'est très énergivore. Donc, c'est pas si neutre que ça. Donc, il faudrait une vraie politique de prévention des déchets. Voilà, c'est-à-dire il faut un vrai message, il faut une vraie pédagogie, il faut vraiment aller vers ça pour que tout le monde s'y mette. Et puis, je pense qu'il faut vraiment des mesures coercitives vis-à-vis de la grande distribution, qui elle, vraiment, c'est une grande poubelle, quoi. Hein, voilà, tout simplement.
Merci Gérard pour cette entrée en matière. Bravo pour votre initiative avec vos 50 familles du côté de Mérignac pour répondre à votre question. Non, mais pour aller dans votre sens probablement, réfléchir à ce que vous nous avez expliqué et poursuivre cette discussion jusqu'à 20h. Laura Châtel est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de plaidoyer à Zero Waste France. Et bonsoir Jérémy Pichon. Vous êtes auteur du blog Famille Zéro Déchet. Vous racontez votre expérience depuis 2016 maintenant. Zéro déchet quasiment. Vous êtes passé de 350 à 35 kilos. Vous allez nous expliquer comment. Vous racontez ça donc dans un blog, dans un livre. Et puis il y a une famille en transition écologique à sortir en mars prochain. Comme le dit Gérard, effectivement, Jérémy Bichon, je vais commencer avec vous. Chacun son rythme aussi peut-être, non? Et chacun va à ce qu'il peut faire plutôt que d'essayer d'être à zéro tout de suite et surtout d'être culpabilisé si on n'est pas à zéro.
Oui, je crois qu'on a déjà tous un chemin écologique différent, c'est-à-dire qu'on a un moment de prise de conscience parce qu'on voit quelqu'un en conférence, une rencontre, un documentaire, un livre, et ces prises de conscience-là nous font passer à l'acte. Et ce qui est important, c'est de commencer. Voilà. Et quand on commence le zéro déchet, c'est ce que dit Gérard, je crois, avec tout ce qu'il nous a raconté, mais c'est que quand on commence, on commence à avoir des résultats. Alors on a des phases de progression. Mmh. Donc à des moments, on a des paliers où on n'avance plus, on a l'impression de régresser. Et puis, donc il faut être patient, ça prend du temps. Mais ce qui est important, c'est de passer à l'acte. Et une fois qu'on a commencé, on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'on sort d'un système, effectivement. Et il a raison de le dire. On s'est vu, je crois, en conférence à Mérignac. J'y étais il n'y a pas longtemps.
C'est un tout petit monde, dites-moi.
C'est un tout petit monde. Et ce qui est important, voilà, c'est de dire qu'on ne revient pas en arrière. Voilà, une fois qu'on a commencé, on a en plus une qualité de vie et on mange mieux, on fait du lien social. Enfin, il y a plein d'avantages, on peut les décrire aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne revient pas en arrière et on ne peut qu'aller vers l'avant. Il faut cette passion.
Qu'est-ce qui reste chez vous, par exemple? Vous dites que vous êtes passé de 350 kilos à 35 kilos de déchets.
Un kilo maintenant. On a un bocal par an. 35 kilos, c'était la première année.
D'accord,
en fait.
Ok, autant pour moi. Donc, qu'est-ce qui reste, en fait?
Mais il reste ce qu'on n'a pas pu éviter, c'est-à-dire les pansements des enfants, des petits emballages de bonbons, des bâtons de sucette, une étiquette sur un fruit qu'on a acheté. Donc voilà, tous ces petits impondérables de la vie qui arrivent chez vous. Alors, vous n'avez pas franchement choisi, ou pas, il n'y avait pas d'alternative, quoi. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'avec le zéro déchet, on a cherché, nous, pendant 3 ans, pour passer d'une poubelle par semaine à un bocal par an. On a cherché toutes les solutions et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de solutions. On a la chance d'avoir, c'est ce que disait Gérard, du terroir en France et on a des marchés de proximité dans tous les villages, dans toutes les villes. Donc si on veut faire ses courses en marché, sortir de la grande distribution qui est une catastrophe écologique pour notre santé, notre portefeuille, parce que tout ça nous coûte très cher, on a des marchés, on a des commerces de proximité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que notre argent reste sur le territoire, il reste dans l'économie réelle, il va pas dans la poche d'actionnaires qui sont déconnectés du territoire.
Laura Châtel, c'est un argument qui reviendra tout le temps en fait, quand on réentendra, il y a aussi beaucoup de questions dans ce sens. Tout le monde peut pas aller faire le marché, même une seule fois par semaine, c'est pas vrai, dans la vraie vie des gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde peut pas se passer du supermarché parce que finalement c'est tellement plus simple au fond, parce qu'on revient d'aller chercher les gosses à l'école et qu'on va aller directement soit à son travail, soit à la maison. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, en fait, qui n'ont pas cette possibilité-là, pour qui c'est moins facile que ça en a l'air?
En fait, je pense qu'il faut trouver son point d'entrée. Le zéro déchet, c'est pas une recette à appliquer mot pour mot. Il faut absolument aller à tel marché. C'est vraiment une myriade d'initiatives. Et donc, on peut assez facilement quand même trouver la solution qui nous correspond. Alors, parfois, ça va prendre quelques mois. En fait, vous allez tester un truc. Par exemple, pour faire mes cours, je vais mettre mon sac en tissu dans mon sac. Et puis ça va pas marcher parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous l'oubliez tout le temps. Et puis en fait, vous prenez tout le temps la voiture, donc il faut mieux avoir votre sac cabas dans votre coffre. Donc en fait, c'est plein de petits gestes aussi comme ça, de tests qu'il faut faire avant de trouver la bonne solution, celle qui vous correspond. Je pense qu'il faut... Il faut pas forcément s'arrêter à se dire oh là là, le zéro déchet c'est pas pour moi parce que moi je vais au supermarché, je peux pas trouver d'autres solutions. Et dans ces cas-là, peut-être au supermarché la prochaine fois, passez à la fromagerie avec votre boîte réutilisable. Essayez, demandez s'ils acceptent. Maintenant, il y a des supermarchés qui acceptent. Proposez peut-être à votre supermarché d'installer un rayon vrac. Et puis petit à petit comme ça, en fait, on prend goût et on va de plus en plus loin.
Et c'est le sens de la question de Florence sur franceinter.fr qui dit je fais attention à limiter mes déchets, j'ai un lombricomposteur dans ma cuisine, j'ai été impressionnée par ces familles et ces blogueurs zéro déchet, c'est de vous qu'elle parle probablement, jusqu'à réaliser que l'expression concerne les déchets non recyclables également. Et ce qu'elle dit en gros c'est, oui mais si derrière il n'y a pas la déchetterie, si derrière il n'y a pas l'endroit où on peut effectivement déposer les endroits, les piles, etc., etc., on est coincé nous aussi derrière. Donc il faut une volonté derrière qui ne dépend pas seulement de nous. On ne peut pas être tout seul là derrière, Jérémy Pichon.
Non, bien sûr, c'est pas parce que c'est une initiative individuelle et familiale qu'on se passe de l'action collective. Après, pour revenir à tout ce qui est tri, déchetterie, etc., et c'est ce que disait Gérard tout à l'heure sur la question du verre, il faut qu'on arrête aujourd'hui de nous dire que le recyclage est la solution. D'accord? La vraie solution, c'est de réduire à la source. Effectivement, recycler du verre, ça demande énormément d'énergie. Mmh. C'est un four à 1200 degrés, c'est des infrastructures énormes. Les piles, moi, j'en ai pas chez moi. J'ai pas de piles chez moi. J'arrive à vivre sans piles, c'est possible, oui. Donc, j'ai pas ce souci après. Aujourd'hui, on nous raconte la croissance verte et l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous inquiétez pas, ne changeons rien, le système. On sait qu'on est en train de détruire notre planète, hein, à tous les niveaux, ressources, changement climatique, etc. Il nous dit, ne changez rien. On va continuer à consommer de la même façon, mais en circuit fermé. On est tellement fort, l'être humain est tellement fort, qu'on va tout récupérer et tout va devenir une ressource. Voilà, ne changez rien. Et on nous raconte ça au niveau du plastique. Alors le sujet du plastique, moi je vous l'expliquer pendant des heures. Je vais vous dire une chose, c'est que c'est pas circulaire le plastique. On ne le recycle qu'une fois. Et il faudrait qu'on les recycle tous. Aujourd'hui on récupère 14% du plastique, le reste est brûlé ou enfoui. Donc le circulaire fermé, c'est faux. Donc il va falloir réduire à la source. Et le mieux, c'est de se passer de ces piles, de se passer de ce verre, ou en tout cas à réutiliser. Voilà là la vraie solution.
Et bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir Fabienne.
Eh ben précisément, puisque vous présidez une association qui s'appelle No Plastic in My Sea, je vous imagine que ça vous parle, ce que dit Jérémy Pichon.
Complètement, quand il dit que 14% du plastique est réutilisé, moi j'ai 12%, on va pas faire une bataille de chiffres, certainement. Je suis bien d'accord avec vous que la vraie solution, c'est réduire à la source. C'est évidemment moins consommer de plastique et en plus des solutions alternatives, il y en a, vous en avez cité quelques-unes, Gérard aussi tout à l'heure. Le vrac, ça existe chez les petits commerçants. Les gourdes et les tasses, ça a toujours existé chez tout le monde. Donc plutôt que d'utiliser des bouteilles et des gobelets, on peut revenir à une utilisation plus classique des produits qui n'utilisent pas de plastique. Parce que le plastique, c'est quand même une énorme pollution. On peut le réutiliser une fois ou deux fois ou trois fois en fonction de la matière qui est produite. Mais c'est clair que même si en France, il y en a 21% qui sont recyclés, un nombre très limité de fois, c'est que 9% dans le monde. Et tout ça termine quand même dans la mer, dans les océans, enfin dans, ou dans les décharges, mais ça finit pas forcément dans les décharges. Donc il y a un cinquième continent qui flotte en surface. On parle pas des micro, des nanoparticules qui, elles, sont à l'intérieur de l'eau que l'on boit. C'est dangereux pour la santé parce qu'il y a des phtalates et des perturbateurs endocriniens. Enfin, moi aussi, je pourrais en parler des heures, mais il est clair qu'on partage tout à fait dans notre association l'idée de réduire à la source, c'est-à-dire de moins consommer.
Et de moins fabriquer aussi dans ces matières-là. Merci Valérie. Laura Châtel, on a gagné sur les pailles, par exemple. On sait désormais, on ne fabrique plus. On n'est pas loin sur les assiettes, les couverts, etc. en plastique, autant que je sache. Où est-ce qu'on avance dans ce domaine-là?
Alors ça avance doucement, hein, mais ça avance parce que il y a une directive européenne qui a été votée il y a à peine quelques semaines, qui propose d'interdire d'ici 2021 les pailles en plastique, les couverts, tout ce qui est vaisselle jetable à usage unique, et puis qui fixe aussi qui propose de fixer des objectifs de baisse de la consommation d'autres types de produits plastiques comme les contenants alimentaires pour la vente à emporter, qui est un gros problème parce que c'est plutôt un déchet plastique qui explose aujourd'hui, hein, nos modes de vie évoluent. Et donc avec eux le plastique malheureusement. Donc c'est une belle avancée. Ce qui est intéressant, juste pour revenir à cette question, est-ce que finalement c'est entre nos mains ou pas? Est-ce que ça dépend que de nous? Non, évidemment ça dépend pas que de nous. Il y a aussi des décisions politiques à prendre, mais ces décisions politiques et notamment cette avancée qui a été menée à l'échelle de l'Union européenne, elle a été possible parce qu'il y a une mobilisation très forte. L'Union européenne n'avait pas du tout prévu de réglementer la question du plastique au cours des 5 années de leur mandat. Ils l'ont fait parce que le sujet du plastique est devenu tellement important. Tout le monde en est conscient, on en parle dans les médias. Les citoyens le citent régulièrement comme un problème environnemental auquel ils sont confrontés quotidiennement. Et ça a provoqué derrière la réaction politique qui est encore limitée. éviter, mais qui est un premier pas intéressant.
Alors, une volée de questions qui nous viennent de Marina, qui est dans l'Isère. J'essaye de passer au zéro déchet avec ma famille, et même si je suis tout à fait d'accord sur le principe, je trouve qu'il y a quand même plusieurs critiques. D'abord, et vous allez nous expliquer, Jérémy Pichon, si elle se trompe, Marina, si on se trompe collectivement, parce qu'on est, ce sont des choses qu'on voit revenir régulièrement. L'achat en vrac n'est pas accessible, petit budget, les prix au kilo sont 3 à 4 fois plus chers qu'en supermarché ordinaire. Est-ce que vrac, c'est vraiment plus cher?
Alors, la première chose sur la question du coût, et ce que disait Gérard tout à l'heure, on n'a pas tous les moyens. Alors, quand on fait du zéro déchet, on réduit son coût. Nous, on a réduit de 20% la première année notre budget familial. Première chose, pourquoi? Parce que on consomme moins. Donc on arrête d'aller en grande surface le samedi ou de faire du shopping comme une activité de distraction. Voilà. Quand on achète, c'est qu'on a vraiment besoin.
En plus, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est oui, c'est plus cher en vrac,
mais on compense
sur autre chose.
Pas que, parce que d'abord le vrac, on achète la juste dose. Quand vous allez en grande surface, ça vous coûte très cher. En fait, le marketing vous dit, chez nous la vie moins chère, ici c'est pas cher. Regardez, toute la pub des grandes distributions est basée là-dessus, sur le coût. D'abord, on paye pas le vrai coût environnemental de ce qu'on mange, ni de santé d'ailleurs, les coûts induits. Mais quand on va acheter en vrac, on achète la juste dose, deux, pas d'emballage, donc pas de marketing ou communication. Mmh. Et il faut comparer à produits équivalents. C'est-à-dire que je vais pas comparer, moi, les pâtes que je vais acheter en vrac dans ma Biocoop, qui sont semi-complètes et bio, avec les panzani à 80 centimes le kilo ou les 500 grammes. Ça, c'est de la brisure de blé. C'est inutile. Ne mangez pas ça. C'est pas bon pour votre santé.
Non, mais c'est cher, Jérémy Pichon. Enfin, je dirais à un moment. Non, mais il faut quand même que ça compte aux yeux des gens.
Je vais vous prendre
une grosse séquence où on parle des pouvoirs d'achat.
Je vais vous parler du
comme si ça n'existait pas.
Je vais prendre l'exemple de Roubaix. Roubaix, la moitié de la population de Roubaix, une personne sur deux, est en dessous du seuil de pauvreté, d'accord? Sinistre total, chômage de masse lié à la délocalisation du textile, bref. Et quand j'ai fait des conférences à Roubaix, j'ai rencontré les élus, ils travaillent depuis 4 ans sur le zéro déchet, parce que les gens qui n'ont pas les moyens, grâce au zéro déchet, peuvent boucler leur fin de mois. Expliquez-moi à quel moment ça coûte plus cher. Ça coûte moins cher, on mange mieux, et surtout quand vous avez fini votre plat de pâte de farine complète bio, je peux vous dire que vous n'avez pas envie d'en manger une deuxième assiette, vous êtes calé. Donc il faut voir aussi la qualité nutritionnelle de ce que l'on mange. Et nous, on a fait le compte de ce qu'on mangeait avec la famille Zéro Déchet. On a calculé cette année avec un bureau d'études notre alimentation. On est à 40% en moins en termes de quantité d'aliments achetés. Pourquoi? Parce qu'on mange beaucoup mieux. Donc c'est ça qui est important de dire.
Vos enfants trouvent que c'est aussi bon que les pâtes normales avec de la sauce tomate?
Avec la crème fraîche de ma fromagère, oui.
Une question suivante que je trouve intéressante chez Marina qui dit le nombre des tâches domestiques augmente parce qu'on doit tout préparer soi-même. Et ça, généralement, ça revient à la femme qui se trouve encore plus à avoir des tâches domestiques à faire donc à la maison. Est-ce que c'est pas un recul par rapport aux avancées sur les droits de la femme? Je trouve que la question est jolie et qu'elle a du sens. Parce qu'on nous parle aussi d'objets, y compris de couches, par exemple. Donc effectivement, les couches qu'on jette sont terribles pour l'environnement. Mais ça veut dire les laver, par exemple. Ça veut dire revenir aussi aux années 50. À quel moment on fait attention à ça aussi, en fait, puisque on fait plus de cuisine, puisqu'il y en a plus de tâches ménagères, attention à qui ça revient.
Alors quand nous on a commencé il y a 5 ans à faire le zéro déchet, il n'y avait pas. Donc il y avait un magasin de vrac en France, c'était à Bordeaux. Et donc on s'est mis à tout fabriquer, parce que nous on voulait vraiment aller dans une démarche de... Donc on s'est mis à fabriquer nos cosmétiques, nos lessives, etc. Aujourd'hui, il y a quasiment, je crois, 250 magasins en vrac en France, quasiment à l'année. Donc on peut ne pas avoir à faire ses cosmétiques ou ses produits d'entretien. Moi, je fais quasiment plus rien. La seule chose que je fais, c'est de l'antifreeze, parce que c'est deux poudres, bicarbonate, argile blanche, ça me prend 2 secondes à le faire, c'est même moi qui le fais, c'est les enfants. Donc, on peut aujourd'hui ne plus avoir à fabriquer, donc gagner beaucoup de temps. La seule chose, c'est qu'on passe du temps, c'est la cuisine. La cuisine, effectivement, on passe en moyenne à peu près 30 minutes le soir. Moi, ce que j'ai envie d'interroger, c'est la qualité de ce temps. C'est-à-dire que ce temps-là, ces 30 minutes-là, c'est un temps familial, et dans la cuisine, il y a de la musique, il fait bon, on boit un petit verre de vin parce qu'on habite dans le sud-ouest, et on discute. Et moi, ça me rappelle quand j'étais enfant, avec ma mère, mes sœurs et mes tantes et ma grand-mère, la cuisine, c'était le lien social. C'est là où tous les dossiers familiaux sortaient, donc moi j'adorais être là. Et c'est un moment de qualité, une demi-heure en moyenne, des fois c'est moins, des fois c'est plus, ça dépend ce qu'on fait. Quand vous faites une purée de patates et que vous mettez effectivement avec du jambon que vous avez acheté chez votre boucher, ça vous prend 10 minutes de faire un repas, et c'est pas toujours une heure. Donc, et moi ce temps-là, j'ai envie de le prendre parce qu'il a une qualité, c'est une qualité énorme, il a des répercussions sur toute la famille, la santé, les achats, l'environnement, etc. Donc ces 30 minutes, effectivement, si on n'aime pas cuisiner ou si on n'a pas l'habitude, on le prend pas. Après, moi, je discutais avec un copain qui me disait, ouais, moi, ton zéro déchet, j'ai pas le temps, etc. Et qui me dit, ouais, t'as vu la saison 4 de Breaking Bad? Ben non, moi j'ai pas envie. Et d'ailleurs, je prends pas le temps de me faire 3 épisodes. Mmh. C'est ton choix, très bien. C'est moi, ça. Ma priorité, elle est ailleurs. Donc le temps, il faut parler d'abord de la qualité du temps et ensuite de la priorité qu'on veut.
J'entends ce que vous dites, Jérémy Pichon, mais ce que j'entends aussi, pardon, en creux, c'est moi j'ai une vie de qualité. Et les gens à côté qui regardent la 3e saison de je ne sais quoi ont pas une vie qui a la même qualité que la mienne. Et là-dessus, moi, j'ai quand même envie de vous dire, eh ben si, quoi, je veux dire. S'il a envie de regarder la 3e saison, il a le droit d'aller regarder la 3e saison et il n'a pas une vie qui est d'une moins bonne qualité que la vôtre, ce monsieur-là.
C'est pas ce que je disais, mais si vous voulez.
Non, mais je veux dire, au niveau du temps, par exemple, on peut aussi avoir envie de regarder une série télé.
Tu peux en mater 2 épisodes et puis garder un petit peu de temps pour faire la soupe.
Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que là encore, le zéro déchet, c'est un panel d'actions possibles. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas passionné par la cuisine. Vous n'avez pas envie de passer 30 minutes à faire la cuisine. Par contre, vous adorez aller chiner dans les petites librairies pour trouver des livres d'occasion un petit peu uniques. Et ben dans ces cas-là, voilà, la démarche zéro déchet, vous pouvez l'orienter vers plutôt essayer de trouver des alternatives au neuf. Nous, on a lancé un défi à l'association Zéro Waste France, qui s'appelle le défi Rien de Neuf. On propose aux gens, pendant un an, de trouver, d'essayer de se fixer le challenge d'acheter le moins de produits neufs possible. Voilà, c'est un nouveau monde, pareil, qui s'offre à vous. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez sonner chez le voisin pour demander l'appareil à raclette au lieu d'en acheter un? Est-ce que vous allez découvrir des nouveaux petits magasins de fringues dans votre ville qui font du vintage ou d'occasion? Enfin, en fait, il y a plein de manières de passer son temps en réduisant son impact environnemental, qui sont différentes, et en fait il y en a pour tous.
Mais j'entends, en vous écoutant et en écoutant nos auditeurs, j'entends parler de philosophie de vie au fond, en fait, beaucoup plus finalement que de faire du bien à la planète, de s'occuper de réchauffement climatique, etc. C'est de ça dont on parle, Jérémy Pichon, au fond. C'est la philosophie de vie de chacun.
Tout à fait, parce que le zéro déchet, on gagne en qualité de vie. On est toujours en train de parler de niveau de vie, c'est-à-dire de combien je vais pouvoir en acheter. Le pouvoir d'achat, on est toujours en train de parler de quantité. Parlons de la qualité de notre pouvoir d'achat. À qui je veux donner mes euros? Est-ce que je veux donner à mon maraîcher local qui travaille sur mon territoire et qui crée de la richesse et de l'emploi? Ou est-ce que je veux les donner aux actionnaires de chez Nestlé qui sont en train de détruire notre cadre de vie, celui de nos enfants? Donc effectivement, avec le zéro déchet, on gagne une qualité de vie parce que on mange mieux, on détoxifie complètement notre alimentation, l'hygiène et la cosmétique. Et ça, quand on parle de cancer, d'autisme et d'Alzheimer, ça a pas de prix. On fait de l'économie locale, on fait du lien social aussi. Et ça, tous les gens me disent, le zéro déchet, c'est trop bien, je rencontre des gens. C'est ce que tu viens de dire, on va chiner dans un magasin, etc. On sort un peu de sa zone de confort. Et surtout, on sort des néons de la grande distribution et du caddie qu'on pousse tout seul. Parce que ça crée... Alors là, moi, je veux dire, la qualité de ce temps-là, je le vois pas, moi, personnellement. Je n'ai aucune envie de continuer à vivre ça. Pour moi, c'est violent d'aller sous les néons avec un caddie. Alors que quand je vais à mon marché et que je discute avec mes maraîchers et il y a toujours un copain pour boire le café à la fin du marché, encore une fois, là, je peux passer 3 heures à faire les courses, ça ne me dérange pas du tout. Encore une fois, remettons au centre la qualité de vie et qu'on a perdu en nous disant ce plastique-là est un progrès. Moi, je ne pense pas que ce soit un progrès. On a perdu beaucoup en qualité de vie.
Pardon, si je peux conclure, le zéro déchet, c'est pas... L'avantage, c'est que ce n'est pas une religion. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'être convaincu là, maintenant, ce soir, après l'émission.
C'est pas une question d'être convaincu. Moi, ce que je veux pas que les auditeurs sortent de cette émission en se sentant coupables lorsqu'ils font soit d'autres choix ou lorsqu'ils sont moins à fond que vous l'êtes, en fait. Et je pense que, y compris en vous écoutant, l'erreur, c'est de culpabiliser parfois les gens en leur disant « Mais comment, toi, tu ne fais rien ?» Et ben, moi, je fais autre chose. Et peut-être que j'y viendrai aussi à un autre mode de vie, mais l'écologie par la culpabilisation, jusqu'à preuve du contraire, c'est exactement ce qui n'a pas marché.
Mais c'est exactement ce que nous disent les gens quand ils lisent notre livre et quand ils entendent nos conférences. Ils nous disent waouh, vous n'êtes pas dans la morale, vous n'êtes pas dans la culpabilité, vous êtes dans une démarche qui est ultra positive. En plus, vous mettez des couleurs, il y a des sourires, vous mettez de l'humour, ça donne envie. Et moi, j'ai passé 20 ans dans les ONG et on a toujours été dans une démarche de faire les choses en étant sexy, en donnant envie plutôt qu'en faisant peur ou en culpabilisant. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous.
Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir. Pardon, bonsoir à tous. Une remarque en passant, à vous écouter, je note que l'écologie et la lutte des inégalités, ça, c'est à peu près le même combat quand on voit d'un côté les trop riches qui dépensent et qui gaspillent de façon scandaleuse, de l'autre côté des plus pauvres qui ne peuvent pas se payer des produits de qualité. Ça montre l'inanité du système dans lequel on est. Et quant à la culpabilité que ressentent les gens, elle est un petit peu normale parce que ils sont pas aidés. Hein, je crois que chacun peut faire. Il y a une démarche positive et personnelle, mais je crois que les pouvoirs publics, effectivement, ne feront pas les aides à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Il y aurait des sommes, disons, gigantesques à mettre en route qui ne sont pas mobilisées. Alors, moi, ma question, elle était plutôt pratique. Je voulais savoir quelle est la faisabilité des composteurs en ville et en particulier en appartement. Je suis dans une ville où on a déjà commencé à distribuer des composteurs individuels, mais je voudrais précéder, puisque dans mon quartier on l'a pas fait, je voudrais précéder à la demande et savoir comment ça peut se faire. Est-ce qu'il y a des nuisances? Est-ce qu'on peut le faire sur l'appartement seul ou dans un petit micro-espace vert qui est au bas de l'immeuble sans gêner les voisins.
Merci beaucoup pour cette question très concrète, Frédéric. Laura Châtel, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? D'abord en copropriété, est-ce qu'on peut dire en bas on met un gros compost pour tout le monde ou pas?
Alors on peut. Après, c'est assez inégal sur le territoire. Tout dépend de ce qu'a mis en place votre collectivité, en fait, votre intercommunalité. Parce que soit la mairie est plutôt volontaire et donc elle accompagne les copropriétés, c'est-à-dire qu'elle va subventionner le composteur, elle va peut-être vous payer une formation. Soit elle fait rien du tout et dans ces cas-là, bon bah avec votre copropriété, vous devez vous débrouiller tout seul pour trouver le composteur, éventuellement convaincre vos voisins de se cotiser pour l'installer et puis peut-être même vous payer une formation. Pour savoir comment le gérer. Y a aujourd'hui beaucoup de mairies qui accompagnent quand même les copropriétés hein, dans les immeubles pour l'installation d'un composteur collectif. Et puis sinon, vous pouvez aussi individuellement, alors si vous avez la chance d'avoir un jardin, évidemment faire un compost dans votre jardin, ou bien en appartement, avoir
ce qu'on appelle... Ça existe ça sur le balcon? Non mais sérieusement?
Ça existe sur le balcon, ça s'appelle un lombricomposteur. Okay. Donc c'est un composteur
Ça a quelle taille hein?
Ça a la taille d'une
C'est un mètre carré au sol, on va dire.
Ouais, c'est ça, un mètre carré au sol. Alors, vous en avez des ronds, ils sont souvent sur roulettes, vous en avez des surélevés ou moins élevés, vous en avez pour deux personnes ou pour cinq. Mm-hmm. Donc, en fait, vous avez un petit peu toutes les tailles, tous les formats. Et là, donc, le principe, c'est que vous avez des petits vers de terre, en fait, vous recréez le métabolisme de la terre, sur votre balcon dans une sorte de boîte, en fait. Donc, c'est un petit peu, il faut le suivre de manière très précise pour éviter, les odeurs, pour suivre précisément ce qu'on met dedans, mais ensuite c'est quelque chose qui se fait très bien. Moi, pour tout vous dire, j'en ai même eu pendant un an dans une
penderie. Donc c'est faisable. J'allais vous demander si on pouvait le mettre à l'intérieur si on n'avait pas de balcon.
On peut le mettre aussi à l'intérieur, c'est ça. Alors le sujet, c'est simplement qu'il faut le suivre beaucoup plus précisément, beaucoup plus régulièrement qu'un composteur en fond de jardin.
Comment on suit en fait?
Et ben c'est-à-dire que tous les jours, vous le soulevez le couvercle, vous remuez un peu. D'accord. Quand vous mettez des déchets, vous faites attention à pas trop en mettre, à pas mettre certains types de déchets comme les oignons par exemple. Il faut éviter de les mettre parce que c'est des petits volumes, et une fois que c'est suivi, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'arrivée de moucherons, parce que quand c'est sur le balcon, c'est pas très gênant. Quand c'est à l'intérieur, ça peut vite devenir compliqué, donc là, il faut réagir vite. Mais en réalité, ça peut aussi être quelque chose d'assez ludique, finalement, à faire. Hein. Vous avez un petit métabolisme naturel qui vit dans votre appartement. C'est parfois assez plaisant, en fait, quand on vit dans des grandes villes. Pour les enfants, c'est aussi marrant. Ça fait des animaux de compagnie, carrément. Donc c'est quelque chose à tester. Si l'idée vous rebute pas, c'est assez amusant à mettre en place. Et ça absorbe énormément de quantités de déchets, en fait. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est
impressionnant. Hein. Et ça produit un liquide qui est très bon pour vos plantes vertes. Alors ça, c'est du compost pur jus, quoi. Ouais. Il y a aussi le bokashi. On n'a pas parlé du bokashi.
C'est quoi le bokashi?
Et le bokashi, c'est un petit composteur de cuisine.
D'accord.
Donc c'est une petite boîte comme ça, de 30 par 30. Vous mettez vos déchets organiques dedans et vous mettez dessus des EM. C'est les petites bactéries issues de la décomposition, je crois, du blé, enfin de céréales, et qui vont manger vos petits déchets. Et ça vous crée en 24 heures un petit compost. Alors c'est un petit peu acide, donc il faut aller le mettre ensuite dans un composteur, mais avec des produits carbonés dedans, c'est-à-dire des boîtes d'œufs, du carton, etc. Mais là, ça se dégrade très très vite et ça vous permet d'avoir un petit composteur. Alors là, pour le coup, c'est hyper adapté dans une cuisine.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que ça existe dans certaines communes, des espèces de grands composteurs dans lesquels chacun va pouvoir aller déposer ses déchets organiques, qui seraient dans certains endroits de la ville? Ça existe ça déjà ou pas, Laura Châtel?
Oui, ça existe déjà. Par exemple, la ville de Besançon a installé beaucoup de composteurs un peu partout dans la ville. Il y a un petit village, je crois, en Vendée aussi, où quasiment toutes les familles compostent aujourd'hui parce que la mairie a installé des composteurs collectifs un peu partout. Donc c'est possible. Après, ce qui se passe aussi dans les grandes villes et ce qu'on va vivre de plus en plus, c'est une collecte, en fait, une troisième poubelle destinée aux déchets organiques qui va être collectée par un camion poubelle. C'est ce qu'on appelle la collecte séparée des déchets organiques et c'est quelque chose que l'Europe, là aussi, nous incite très fortement à faire. Normalement, d'ici 2023, ce sera obligatoire. La ville de Paris, par exemple, a commencé dans deux arrondissements. Normalement, si vous habitez dans le 2e ou le 12e arrondissement, vous avez reçu votre petit bac à compost et vous pouvez donc trier, en fait, faire un troisième tri pour les déchets organiques. C'est un tiers de la poubelle, les déchets organiques. Donc, quand vous avez extrait ça, vous avez déjà réduit beaucoup, beaucoup votre impact, en tout cas déchets.
Bonsoir Martine.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Martine.
Et avant de poser ma question, est-ce que vous m'autorisez une petite remarque?
Je vous en prie.
Alors, moi, je voudrais qu'on arrête de stigmatiser les supermarchés. Je renvoie à un très beau petit livre d'Annie Ernaux, « Regarde les lumières, mon amour », où elle montre, c'est Annie Ernaux, c'est pas n'importe qui, où elle montre que ça peut être aussi super, les supermarchés. Parenthèse fermée.
Ma question, voilà pour la littérature. Allez-y, Martine.
Ma question est une question très précise. Je suis très embarrassée chaque fois que je voudrais faire réparer un appareil. Je raconte ma petite mésaventure. J'ai acheté une platine il y a quelques années et la pointe de lecture pour les disques a été fichue. J'ai tout fait pour essayer de la faire réparer. Je ne trouve pas quelqu'un qui me remette une pointe de lecture. Est-ce que vous pourriez donner des informations concrètes d'adresses ou de sites où on peut trouver des gens qui réparent des radios, des platines pour lire des disques, je ne sais pas, des télévisions, des je ne sais pas quoi. Parce que du coup, ma tentation, c'est de l'acheter et d'en racheter une autre.
Merci pour votre question très concrète, Martine. Laura Châtel, il y a de plus en plus d'endroits où ça existe. Effectivement, c'est parfois difficile à trouver. Il y a des associations qui réparent tout aussi. Encore faut-il savoir effectivement où elles sont.
C'est ça, c'est très compliqué, surtout de plus en plus, de trouver des réparateurs en dehors des circuits traditionnels, Darty, etc., qui eux ont leur propre circuit.
Bah, de toute façon, qui vous échangent le produit.
Sans réparer. Ouais. Donc il y a des associations qui existent, par exemple les Repair Café. Nous, ce qu'on a essayé de faire à Zero Waste France, c'est réunir aussi toutes ces initiatives dans le cadre de notre défi Rien de Neuf, où justement on propose aux gens de se lancer ce petit défi de rien acheter de neuf, et en 2019, on repart, et 15 000 personnes qui ont participé en 2018, qui nous ont fait remonter, du coup, à la fois leurs problèmes, leurs difficultés, et la réparation, c'est une des grosses difficultés qui est remontée, et leurs solutions. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site du défi, rien-de-neuf.org, parce qu'il y a des initiatives pour trouver d'occasion, pour trouver potentiellement des réparateurs, des réseaux de réparateurs, comme les Repair Café dans les régions, ou pour aussi trouver d'autres solutions. Peut-être, parfois, on peut louer maintenant le produit. Après, je partage complètement. Ce n'est pas que de l'initiative individuelle. Il y a aussi un maximum de mauvaise volonté d'un certain nombre de fabricants qui, non seulement produisent des produits qui ont une très faible durée de vie, mais en plus ne mettent pas à disposition les pièces détachées. Ce qui fait que les petits réparateurs ne peuvent plus rien faire.
Vous louez, Jérémy Pichon, d'ailleurs, de ce que j'ai lu, en fait.
Juste avant, il y a aussi le réseau Envie, dont il faut parler, ENVIE, qui est un peu le réseau Emmaüs de l'électroménager et qui va récupérer tout ce qui peut être frigo, etc. Fait de la formation pour des gens en insertion, qui étaient désocialisés, et va réparer et va remettre tout ça en vente. Donc, n'allez pas acheter neuf, allez dans ces magasins-là. Et madame, je pense, Martine, excusez-moi.
Ouais.
Je pense que vous pouvez demander dans les réseaux Envie, peut-être qu'ils auront des solutions pour vous. Et pour tout ce qui est diamant, donc de platine, parce que vous écoutez les vinyles et moi aussi, c'est assez compliqué. Il faut voir avec la marque, donc soit sur Internet, soit aller directement dans un grand distributeur type Fnac et leur demander de le commander. Logiquement, ça se commande, à moins que vraiment la platine elle ait 20 ans et que soit obsolète. Mais ça peut se commander. Pardon, vous me parliez.
Non, je vous disais, vous louez beaucoup, en fait. Enfin, l'idée de ce que vous dites est effectivement, c'est toujours pratique d'avoir une sauteuse à la maison, mais c'est pas comme si on utilisait une scie sauteuse tous les deux jours. Donc à quoi bon avoir une scie sauteuse au fond si on peut la partager avec tout le quartier? C'est aussi comme ça que ça peut fonctionner.
Oui, moi je rêve qu'on monte des bricothèques. Voilà, des comme la ludothèque pour les enfants, on va louer le jeu. Alors, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est une vraie révolution économique. Mais il va falloir qu'on y passe, malheureusement, en tout cas heureusement, parce que la planète nous dit stop en ce moment. Elle nous dit stop au niveau du changement climatique, au niveau de l'épuisement des ressources, au niveau de l'eau aussi, la consommation et la pollution de l'eau. Elle nous dit stop, donc il va falloir qu'on passe à des logiques de fonctionnalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je n'achète pas l'objet, mais j'achète son usage. Quand vous allez à la ludothèque, vous achetez pas le jeu, vous achetez l'usage. Et ce jeu-là va être utilisé par 2000, 3000, 4000 enfants. C'est absolument incroyable. Et en plus, il va y avoir une durée de vie très longue, puisque la ludothécaire va tout faire pour qu'il dure. Et ça, on pourrait très bien le faire avec beaucoup de choses, à commencer par, bien sûr, le bricolage. À quoi ça sert d'avoir une perceuse? Je crois que la perceuse, dans sa durée de vie, va être utilisée effectivement 12 minutes. Moi, je suis un bricoleur du dimanche, je la sors jamais, elle dort 99% du temps. C'est valable pour la scie sauteuse, mais c'est valable pour la tondeuse, c'est valable pour l'appareil à raclette. Tous ces trucs-là, on nous a dit qu'en avoir plein les placards, c'était le bonheur et c'était la réussite sociale. On est en train d'en revenir, et tant mieux, et on est en train de se dire qu'il faut plus être dans l'être et le faire. Et en plus, tout ça dégage de l'argent, encore une fois, pour faire autre chose. Tant mieux, on épargne la planète et en plus son portefeuille. Moi, je rêve qu'il y ait des bricothèques à l'échelle d'un immeuble, d'un lotissement. Et puis là, en plus, On peut partager tous ensemble, on va recréer du lien.
Ça existe quand même, ça commence à exister doucement. Moi, dans mon quartier, il y a un réseau social de quartier de voisins, c'est à ça que ça sert, qui a des clous, qui a je sais pas quoi, etc. Ça existe sur les voitures aujourd'hui, les voitures en partage, donc on y vient quand même, non? On a appris ces choses-là, Jérémy Pichon, un peu.
On a appris, mais moi, ce qui est fou, c'est que quand je vois mon grand-père, moi je suis petit-fils de paysan du Lot, du Sud-Ouest, et quand il faisait les foins, c'était le mardi chez Robert, le mercredi chez René, le jeudi chez nous, et il se prêtait les outils. Et il y avait des outils pour tout le monde. On mutualisait spontanément parce qu'on n'avait pas l'argent. Et en plus, le soir, on buvait des coups. Mon grand-père était bouilleur de cru, donc je ne raconte pas. Et la prune et la poire. Mais donc, on l'a perdu et on s'est isolé. Et moi, je crois qu'il y a une vraie souffrance aujourd'hui sociale qui est dans l'isolement. Et cet isolement, il est lié à la consommation. Et je pense qu'en revenant vers la mutualisation et du partage, on va retrouver du lien social que tout le monde demande et tout le monde est ravi de passer une soirée à discuter ou bricoler ensemble.
Tiens, voilà une initiative.
Et petite expérience. Parce qu'on est encore en hiver, les températures sont faibles. Si vous voulez faire une raclette et que vous n'avez pas d'appareil à raclette, tentez l'expérience de mettre un petit mot sur votre boîte aux lettres dans votre immeuble. Je cherche un appareil à raclette pour faire une soirée. Vous êtes à peu près sûr d'avoir une réponse de deux ou trois voisins, que ça vous donnera l'occasion de les rencontrer et ils seront ravis, eux, de que leur appareil serve à quelque chose. Donc, n'hésitez pas, c'est une manière très facile de faire de nouvelles connaissances.
Jérémy, très vite pour qu'on retourne au standard.
Et oui, très vite parce que il y a aussi un autre problème aujourd'hui, c'est tout ce qui est numérique. On nous dit qu'on a numérisé la société complètement. On commence à se retrouver dans une impasse technologique au niveau des minerais. On sait que certains sont critiques dans 20 ou 30 ans.
Bien sûr.
Une impasse évidemment énergétique, puisque tout ça doit être transformé. C'est le gros problème aujourd'hui des ressources.
Une impasse géopolitique, puisqu'ils sont tous en Chine.
Ils sont tous en Chine. 90% des terres rares viennent là-bas. Quand la Chine va nous dire « je ferme le robinet, on va faire comment ?» Donc, le numérique, l'économie des fonctionnalités, il va falloir qu'on y passe. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on loue nos smartphones et qu'on loue nos ordinateurs et qu'on les répare et qu'on les mette à jour et qu'on les fasse durer le plus longtemps possible et pas un taux de renouvellement qu'on a aujourd'hui de smartphone, c'est 2 ans. C'est une catastrophe écologique, vous l'avez dit, géopolitique et énergétique. Donc, l'économie de la fonctionnalité, j'insiste vraiment, ça va être une des solutions très fortes pour demain, pour aller vers un monde qui soit un peu plus écologique et encore une fois, on va gagner de l'argent.
Bernard, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne.
Vous êtes le dernier Bernard, je vous demande d'aller un peu vite, mais je vous en prie, on vous écoute.
Donc c'est juste un petit témoignage concernant mon petit-fils. Vous voyez, à 4 ans et demi, il fait son tri lui-même. Les poubelles jaunes, vertes, bleues n'ont aucun secret pour lui. Et il peut passer des heures devant des conteneurs, ou même des minutes en attendant le camion poubelle. Et voilà, et il fait son tri tout, quand il prend ses jouets, par exemple, il va les verser par terre et il va passer des heures à trier et retrier. Et voilà. Et tous les matins, par exemple, il va à l'école andrésienne ou en vélo, il a 4 ans et demi, vous voyez. Et il n'est pas content si, par exemple, ses parents l'emmènent en voiture. Lui, c'est...
Garde la trace carbone, même à 4 ans, en fait. Et c'est tant mieux.
Un écologiste dans l'âme.
Eh ben tant mieux. Merci Bernard pour ce joli témoignage de conclusion, Jérémy Pichon.
Oui, il fait bien parce que cet enfant-là va quand même connaître une société, et en tout cas une vie active. Il va travailler dans une société sans pétrole. Aujourd'hui, est-ce qu'on le prépare aujourd'hui à l'école? Est-ce qu'on lui en parle? Est-ce qu'on est en train de préparer les métiers de demain? Pas du tout. On n'est pas du tout en train d'anticiper ça. Pourtant, cet enfant-là va le connaître.
Alors par exemple, vos enfants, vous, Jérémy Pichon, est-ce qu'ils sont vus comme des extraterrestres par leurs petits camarades de jeu ou pas?
Pas du tout, parce que les vêtements...
Donc il y a de l'espoir quand même.
Ouais, ils sont même enviés sur plein de trucs. Je veux dire, quand c'est le pique-nique zéro déchet à l'école et qu'ils arrivent avec leur petite boîte à pique-nique et qu'ils jouent à la cantine, là, ils sont enviés, quoi. Donc, et puis les cookies ou les goûters maison, c'est autre chose que les trucs suremballés. Donc, non, ça y vient, ça y vient. Et puis surtout, les enfants, faut pas oublier, c'est que quand ils ont décidé de le faire, quand ils ont compris l'impact que ça peut avoir sur les mammifères, eux, ils sont très proches de la sphère mammifère. Ce sont des petits animaux en cours de dressage, surtout mes enfants. Et quand ils ont envie de les protéger, quand ils ont décidé qu'il fallait le faire, ils passent à l'acte et se posent pas de questions. Ils ont beaucoup moins de freins psychologiques que les enfants. Et tant mieux, parce qu'ils vont avoir un chantier devant eux. Ils vont payer la facture de notre consommation actuelle. C'est eux qui vont la payer.
Allez, ce sera la conclusion de ce téléphone sonne ce soir. Merci beaucoup pour vos très nombreux appels. Comme d'habitude, merci à tous ici, bien sûr, autour de la table. Et portez-vous bien. Dans 3 minutes, c'est Laura Adler pour l'Heure Bleue. Comme d'habitude, pour l'heure, il est pile 20h.